France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
En 1980, Berlin consacrait à Robert Rauschenberg une grande rétrospective qui rendait compte de son travail sur une trentaine d'années. Au début des années 80, longtemps après l'avènement du pop art, dont il avait été un précurseur, l'extrême richesse et la diversité de sa production interdisaient déjà de ne voir Rauschenberg qu'à travers ses créations des années 50 et 60 ou de le rattacher à un mouvement précis. C'était ce que rappelait l'émission que nous allons entendre, le cinquième et dernier volet d'une série dans laquelle, saisissant l'occasion de cette rétrospective, Jean Dève explorait l'œuvre de Rauschenberg en prenant parallèlement le pouls du Berlin-Ouest artistique et intellectuel, 10 ans avant la réunification de l'Allemagne. Une émission dans laquelle témoignait Pontus Hultén, qui était alors le directeur du musée d'art moderne du Centre Pompidou. Il soulignait ce qu'avait été le questionnement constant de Rauschenberg sur son travail et les questions qui nous étaient posées à travers ses œuvres, en rappelant l'influence qu'avait eue sur d'autres artistes ses célèbres combined paintings. Témoignait aussi dans ce cinquième volet le critique d'art Claude Gins, qui disait ce qu'avait été l'évolution de Rauschenberg depuis ses combined paintings des années 50, en tentant de le situer par rapport aux différents mouvements de l'art contemporain et du pop art en particulier. Claude Gins, qui voyait lui aussi la carrière de Rauschenberg comme une éternelle recherche dans laquelle John Cage avait joué un rôle important. Nuit magnétique, d'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin, cinquième et dernière partie, diffusée le 9 mai 1980 sur France Culture.
Bonsoir. D'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin, cinquième partie.
Ça, c'était à Aachen, ou Cologne. Bon, ça doit être Cologne. Quelqu'un est tombé dans le Rhin. Il commence à nager, mais vraiment désespéré, vraiment désespéré. Il s'écrie « Au secours, au secours, au secours !» Un Allemand de haut du pont, là, lui répond tranquillement, carrément. Voilà, c'était beaucoup mieux si tu avais... hättest du mal lieber schwimmen gelernt als französisch.
Ah, mais tu aurais mieux fait d'apprendre à nager que d'apprendre le français.
Bon,
à la conférence de la presse, on a demandé Rauschenberg ses plans futurs. Alors on lui a dit, c'est mon mystère.
Il y avait dans une forêt un chemin en forme de fer à cheval, mais le chemin était horizontal. Puis un jour, plus tard, quelqu'un suspendit au-dessus de mon lit, justement, un fer à cheval pour attirer la chance, mais à l'aide de la verticalité.
Marilyn Monroe left us many wonderful memories, some big, some small, some passing, some permanent, as her sensuous singing of songs in her motion pictures, ballads, torch songs, rhythm numbers, blues, it made no difference. She put the stamp of her personality on them and made them her own.
Vous avez compris cette histoire. Rauschenberg très vite a compris qu'il fallait suspendre un tableau à la façon dont on fixe des cartes ou des plans d'architecture. Cependant, ces tableaux n'évoquaient plus des champs verticaux, mais des plateaux horizontaux. Le plan du tableau fait symboliquement allusion à des surfaces solides, dessus de table, sol d'atelier, diagramme, tableau d'affichage, toute surface réceptrice sur lesquelles on peut répandre des objets, faire entrer des données, recevoir, imprimer, reporter des informations dans la cohérence ou la confusion. Dès lors, les œuvres picturales de Rauschenberg devaient mettre l'accent sur une orientation radicalement nouvelle où la surface peinte ne présente plus d'analogie avec une expérience visuelle, naturelle, mais s'apparente à des processus opérationnels.
Mr. President, Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Robert Rauschenberg par lui-même en 5 citations. Une paire de chaussettes convient tout autant pour faire un tableau que du bois, des clous, de la térébenthine, de la peinture à l'huile, du tissu. Je commençais par utiliser des journaux dans mon œuvre, pour activer un fond, de telle sorte que même les premiers coups de pinceau aient leur propre position spécifique dans une carte grise de mots. La peinture se transformant, les mots imprimés devenaient un matériel pictural, comme la couleur, créant des changements de foyer et provoquant la multiplication et le redoublement des images. Une troisième palette, avec d'infinies possibilités de couleurs, formes, contenus, échelles, venait alors s'ajouter aux palettes des objets et de la couleur. Je n'ai aucun but. Les peintres emploient des couleurs qui, elles aussi, sont fabriquées. Je désire intégrer à ma toile n'importe quels objets de la vie. Une paire de chaussettes convient tout autant pour faire un tableau que du bois, des clous, de la térébenthine, de la peinture à l'huile, du tissu. Je commençais par utiliser les journaux dans mon œuvre pour activer un fond de telle sorte que même les premiers coups de pinceau et leur propre position spécifique dans une carte grise de mots. La peinture se transformant, les mots imprimés devenaient un matériel pictural, comme la couleur, créant des changements de foyer et provoquant la multiplication et le redoublement des images. Une troisième palette, avec d'infinies possibilités de couleurs, formes, contenus, échelles, venait alors s'ajouter aux palettes des objets et de la couleur. Pour ce qui est du style, j'en ai essayé un bon nombre, et c'est toujours pour moi un plaisir d'y renoncer. Il n'y a pas de sujet pauvre. Toute incitation à peindre en vaut une autre. J'essaie de contrôler mes habitudes de voir, de les contrarier à la recherche d'une plus grande fraîcheur. J'essaie de ne pas être familier avec ce que je fais. Je suis dans le présent. Je cherche à célébrer le présent avec mes limites, mais en utilisant toutes mes ressources. Le passé n'existe pas comme l'avenir, qui est une supposition. Le passé fait partie du présent. Il est présomptueux de penser au passé et à l'avenir, sans se dire que l'idée qu'on en a n'est qu'une interprétation du moment. La preuve en est que, pour moi, le passé change continuellement, alors que l'avenir, lui, demeure toujours le même. Pour Dada, il s'agissait d'exclure. C'était la censure contre le passé, son effacement. Aujourd'hui, pour nous, il s'agit d'inclure un mouvement, d'introduire le passé dans le présent, la totalité dans le moment. Il y a là toute la différence entre l'exclusion et l'inclusion.
Très ouverte, toujours en mouvement. Alors quand lui a travaillé ici pour 4 jours, et quand nous sommes tombés la nuit, lui est encore vivante. La presse est absolument positive. Il y a des articles.
Dieter Rückaberl.
Positif.
Dans la vie, hier, j'ai lu un article sur Rauschenberg.
À la FAZ, hein, la Frankfurter Rundschau. Hein. Oui.
Très positif.
Oui, oui. À la télévision, a fait 5 émissions en plus.
Alors, c'est avec Rochenberg.
Oui, avec Rochenberg aussi, et avec des pièces sur l'exposition.
Mais la presse a toujours été très positive pour Rochenberg dans l'ensemble.
Oui, mais en avance, non.
En Europe,
il y a aussi, hein. Yeah. Oui, alors il saute. Yeah. C'est un mystère aussi.
Votre catalogue est plus complet que celui de Washington?
Alors, plus complet avec les dessins. Avec les objets, je crois qu'il y a quelques pièces à Washington qu'on n'a pas. Il y a une différence de l'exposition. Alors, il y a quelques pièces, ils sont à Berlin, qu'on n'a pas exposé à Washington, et il y a quelques pièces qui sont exposées à Washington qui ne sont pas à Berlin.
Bon, alors, ben, vous avez reproduit des pièces qui n'étaient pas exposées
oui,
à Berlin.
Alors, oui, oui, mais on dit ça dans le catalogue. Par exemple, le monogramme, je pense que c'est si important, il est absolument nécessaire pour avoir une vue presque complète sur l'œuvre de Rauschenberg, qu'on a aussi... une pièce si importante comme monogramme dans le catalogue. Alors, voilà. Où est ça? Monogramme. C'est la première fois qu'ils sont reproduits en couleur. Hein.
Les premiers dessins de Rochenberg.
Oui, oui. Monogramme. Not in the exhibition. Il n'est pas transportable. On ne peut pas transporter.
Il est trop fragile.
Il est trop fragile, oui. Et moi, je pense qu'il est nécessaire de faire la reproduction. Et regardez comment les aquarelles sont reproduites. On fait ça sur machine avec 4 couleurs en même temps, avec très grande forme. Et ce sommes nous, moi-même, mon assistant, qui fait les compromis directement à la machine. À l'imprimerie.
Robert Rochenberg par John Cage en 5 citations. La conversation était difficile et la correspondance pratiquement arrêtée. Pas à cause de la poste qui continuait. On parlait de messages, peut-être parce qu'on était sans nouvelles les uns des autres depuis longtemps. L'art était florissant. Le bouc, pas d'herbe folle. Aisance dans la virtuosité. Y a-t-il un lit dans sa tête? Beauté. Ses mains et ses pieds, avec leurs doigts et leurs orteils allongés, sont étonnants. Ils sont la garantie de son travail, et la signature n'est nulle part. Les tableaux ont été jetés dans le fleuve après l'exposition. Quelle est la nature de l'art quand il arrive à la mer? La beauté pousse maintenant partout où l'on se donne la peine de regarder. C'est là une découverte américaine. Quand Rochenberg regarde, est-ce une idée? Plutôt un divertissement, où l'on célèbre la non-fixité. Pourquoi a-t-il fait des tableaux noirs, puis des blancs, montant du sud, des rouges? Les tableaux or étaient des cadeaux de Noël, des multicolores, porteurs d'objets. Pourquoi a-t-il fait des sculptures auxquelles des pierres sont accrochées. Doué? Je sais que c'est lui qui a mis la peinture sur les pneus et qui a déroulé le papier dans la rue. Mais lequel de nous conduisait?
Thank you.
Alors, cette exposition ici, c'est une combinaison avec des dessins. Il y a beaucoup d'aquarelles, dessins et transfer drawings, strong currents. C'est une, ce sont des collages avec des pièces de journaux, avec des autres éléments. Et il y a aussi les posters, quelques posters, affiches en français, n'est-ce pas? Des affiches, des dessins. C'est pas exposé. C'est comme ça, c'est dans le dépôt.
Ah bon?
Il a dit, c'est trop.
On va la voir quand même.
On peut la voir. C'est dans le dépôt. Pas tout le monde peut voir. Alors, voilà les dames de drawings, on a parlé déjà sur ça.
Ça, c'est extraordinaire. Ce sont des pavés de une rue.
So. Alors, ici, ça commence les tableaux.
La reproduction
des toiles. La reproduction des toiles, des objets. So, je cherche encore.
Qu'est-ce que c'est que ça, cette reproduction?
Alors, c'est dans une salle d'exposition. Il y a quelques pièces qui sont passées dans l'exposition. Parce que le collectionneur en Italie ne donne pas, ne laisse pas sortir ces Rauschenberg dehors.
Rauschenberg se voit continuellement offrir des bouts de ceci et des bouts de cela, trouvailles de tous ordres, dont ses amis pensent. Voilà quelque chose dont il pourrait se servir pour un tableau. 9 fois sur 10, il se trouve qu'il n'en a rien à faire. Disons que c'est quelque chose qui se rapproche de quelque chose qui lui a paru utile un jour, que donc on pourrait reconnaître comme lui appartenant. Par la force des choses, sa poésie n'est plus là, sans qu'on sache où elle est allée. Il change ce qui se passe sur une toile, mais il ne change pas la manière d'utiliser la toile pour peindre, c'est-à-dire tendue à plat pour faire des surfaces rectangulaires qu'on peut accrocher sur un mur. Il les utilise séparément, groupées ou disposées avec une symétrie si évidente qu'elle n'attire pas l'attention. On connaît 2 manières de disperser l'attention. La symétrie en est une. L'autre est la surface totale, dont chaque parcelle est un échantillon de ce qu'on trouve ailleurs. Dans les 2 cas, on a tout au moins la possibilité de regarder n'importe où, et pas seulement là où quelqu'un a prévu qu'on devait regarder. On est donc libre de traiter sa liberté, exactement comme l'artiste a traité la sienne, pas de la même manière, mais tout de même depuis l'origine. C'est ça, dit-il, la répétition des images, qui est la symétrie. Ce qui veut seulement dire, à y regarder de près, que nous voyons comme si tout était encore dans le chaos.
Oui, ça, c'est le motif qui revient souvent, ça.
Oui, oui, la caisse.
Alors, la caisse transparente.
Oui, oui. Alors, c'est un symbole pour l'espace, n'est-ce pas? Ça donne...
Vous avez déjà vu des actions de Rauschenberg?
J'ai vu une action avec le Merce Cunningham Dance Company. Lui a fait beaucoup de travail avec Merce Cunningham Dance Company. Vous avez vu?
Non.
Bon. C'est ça. Alors,
Il n'y en a pas, hein, ici, à Berlin.
Il est dans le dépôt.
La porte est-elle fermée? Non, elle est ouverte, comme d'habitude. Certes, Rauschenberg a des techniques, mais celles qu'il a, il ne s'en sert pas. Et celles dont il se sert, il ne les a pas. Je dois dire qu'il ne force jamais une situation. Il ressemble à ce boucher dont le couteau ne s'émoussait jamais, parce qu'il coupait de telle manière qu'il ne butait jamais sur un obstacle. L'art moderne n'a pas besoin de technique. Nous sommes dans la gloire de ne pas savoir ce que nous faisons. Ainsi, la technique, n'ayant rien à faire avec le tableau, a à faire avec qui regarde et qui a peint, les gens. La technique, c'est comment vont les gens. Non pas comment ils ont réussi, mais comme il le disait, la faiblesse. Il dit, et parle-t-il de technique, qu'est-ce qu'il vous faut? Une déclaration d'amour? Je prends la responsabilité de la compétence. J'espère avoir fait quelque chose de hasardeux à quoi nous puissions nous mesurer. Il s'agit donc de voir dans le noir, de ne pas trébucher visuellement. Maintenant que Rauschenberg a fait un tableau, avec des radios dedans, est-ce que cela veut dire que, même sans radio, il faut que je continue d'écouter, même en regardant, tout en même temps, pour ne pas me faire écraser ? Combine n'a pas plus de sujet qu'une page de journal. Chacune des choses qui s'y trouvent est un sujet. C'est une situation qui suppose la multiplicité. On ne peut pas s'en prendre à la météorologie si tel gouvernement a remis une note à tel autre. Et les trois radios du Combine, radio, branchée, laquelle fournit le sujet ? Disons qu'il y a un message. Comment serait-il reçu? Et s'il ne l'était pas? Tableau après tableau, je me suis trouvé incapable de me rappeler le travail de Rauschenberg. Je lui demande constamment, « Tu l'as changé ?» Remarquant alors que pendant que je le regarde, il change. Je regarde par la fenêtre et je vois des glaçons. De l'eau qui coule, gèle, et devient objet. Tous les glaçons descendent. L'hiver, plus que les autres saisons, est le temps de la quiétude. On n'a pas de coulée de peinture quand on presse un tube, mais on a la même attitude, acceptant ce qui arrive, refusant le geste ou l'arrangement, ce qui change la notion de beauté. En collant des papiers à la toile et en y mettant de la peinture noire, le noir devient infini et jusque-là inaperçu.
Il vous a offert une œuvre ?
Non, non.
Rien ?
Ah non, je ne peux pas apprendre. Non, non.
Est-ce qu'il va laisser une œuvre ici au...
Non, je ne crois pas. Non, non.
Peut-être.
Non. Oh, c'est pas possible.
Pourquoi ?
Ah, c'est pas possible. Ah, c'est une chose. Il est nécessaire d'avoir une différence stricte de ce ça.
Bon. Mais est-ce que ça coûte très cher, une telle exposition ?
Oui, ça coûte très cher. Oui, c'est vrai. Alors, l'assurance est très haute. Je ne sais pas exactement la somme. Mais c'est très cher.
Environ.
Les transports, par exemple, je peux dire, c'est tout assemblé ici pour Berlin, c'est presque 300 000 francs, nouveaux francs. Alors, c'est la moitié à marque allemande, c'est 130 000
francs. Et les assurances francs.
L'assurance, je ne sais pas, hein, pas encore, mais c'est très, très cher. Mais à la temps, quand j'ai la possibilité de faire la première fois une exposition, quand j'étais exposé à Whitechapel, on n'avait pas voulu à Berlin. C'est moi seulement qui battais avec ça, il est nécessaire. Ce n'était pas très cher. Alors on peut faire une exposition à Rauschenberg pour presque rien.
C'était en quelle année ?
À 64.
Il y a 20 ans.
Oui, oui, il y a 20 ans. Et maintenant, alors, on m'a... Là, ce n'est pas être directeur d'un musée. Maintenant, on paye 10 fois plus qu'à ce temps qu'il était possible d'acheter les plus importants tableaux, n'est-ce pas?
Mais vous pensez acheter une œuvre de Rauschenberg?
Maintenant, c'est trop cher.
C'est combien une œuvre?
Alors, la Kunsthalle ne achète pas. La Kunsthalle n'est pas une collection, mais c'est la National Gallery, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est trop cher. Oh, c'est très cher, pas trop cher.
Alléluia. L'aveugle retrouve la rue, aveugle à ce qu'il a vu si bien qu'il voit comme si c'était son premier regard. Comment se fait-il qu'on ait cette impression devant, par exemple, les deux tableaux avec Eisenhower, qui, à toutes fins utiles, sont pareils ? Répétition contenant des répétitions. Tout est tellement pareil qu'on remarque intensément les différences, et vite. Et lorsque, comme ici, l'intention ne change pas, il est clair que les différences sont involontaires, aussi involontaires qu'elles l'étaient dans les tableaux blancs où rien n'est fait. De la vision, est-ce que je passe à la poésie ? S'agit-il d'une poésie où Eisenhower aurait pu disparaître et céder la place à la Joconde ? C'est ce que je pense. Mais ce n'est pas ce que je vois. On n'a aucun doute quant à la place du haut et du bas. Nous avons en tout cas les pieds sur la terre. La place d'un tableau est sur le mur. La place d'un tableau, veux-je dire, en devenir. Quand je lui ai montré la photo de l'un des tableaux de Rauschenberg, il m'a dit « Si j'avais un tableau, je voudrais être sûr qu'il reste comme il est. Celui-ci est un collage. Il changera. » Mais Rauschenberg est pratique. Il prend les choses comme elles sont. Il sait qu'un tableau s'accroche à un mur, et pas n'importe comment, mais le haut en haut, et il sait aussi que le tableau, comme lui, change. Lequel des deux le plus vite? Et les pyramides changent. Si possible, et par différents moyens, il pousse la roue. Trous au travers desquels on voit, derrière la toile, le mur auquel est confié le tableau. Surface réfléchissante, qui change ce qu'on voit au moyen de ce qui se passe. Lumière qui s'allume et s'éteigne, et les radios. Les tableaux blancs étaient des aéroports pour les lumières, les ombres, les particules. Et aujourd'hui, dans une boîte de fer attachée à une corde, l'histoire consignée en dessin de ce qui a été soustrait et remplacé, un tableau qui change constamment. Il y a chez Rauschenberg, entre lui et ce qu'il ramasse pour s'en servir, quelque chose de la rencontre, pour la première fois. S'il arrive qu'il y ait une série de tableaux qui contiennent tel ou tel matériau, c'est comme si la rencontre se prolongeait en une visite de l'étranger, qui est divin. C'est ainsi que les sociétés non informées par les artistes coagulent leur expérience en mode de communication, afin de se tromper. Après peu, l'étranger s'en va, laissant la porte ouverte.
Alors, j'espère que l'exposition va à Paris, parce que...
Mais ce n'est pas sûr.
C'est une source d'espace. Pour nous, c'est très intéressé. Oui. C'est une question de l'espace.
Et d'argent?
Je ne crois pas.
Beaubourg, il y a quand même pas mal d'espace.
Hein. Oui, mais maintenant, il y a la Biennale. Il y a la possibilité maintenant, en septembre, mais il y a la Biennale de Paris au centre de Beaubourg. Peut-être à la fin de la tournée, de la tour, on peut faire l'exposition à Paris.
C'est-à-dire dans un an, dans deux ans?
C'est le début de l'année prochaine.
Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail de Rauschenberg?
Mais ce qui nous a choqué, n'est-ce pas, d'une façon forte, d'une façon forte, au début, c'était...
Pontus Gluten.
Le combine, paintings, les assemblages, qui avaient en même temps une espèce d'agressivité et fraîcheur et maîtrise qui était assez éblouissant. Et je crois que toute une génération d'artistes et autres gens a été, quand ça a été exposé à Paris, je sais quoi, première fois en 59, il me semble, on a été très très frappés et choqués. Et ensuite, ça a été énormément discuté et absorbé, certainement. Ça a eu un effet d'inspiration colossal. Et c'est l'intelligence, certainement, qui frappe aussi. L'intelligence dans tout ce que Rauschenberg fait, qui rayonne d'une certaine façon de toute son œuvre.
Mais il me semble, enfin c'est une question que je n'y ai pas posée, mais que les combined paintings font figure de matrice, que dans le travail actuel, j'ai l'impression que Rauschenberg ne cesse pas d'interpeller et d'interroger le travail qui a été fait.
Ah oui, certainement, il se pose toujours des questions, aussi bien sur ce qu'il fait que sur ce qu'il a fait, et ce qu'il va faire, et constamment sur l'existence de l'art, enfin la grande question, est-ce que ça sert à quelque chose, tout ça?
C'est vraiment la question qu'il se pose?
Je crois qu'il le pose, oui.
Le mot art n'a pas été prononcé tout à l'heure.
Non, c'est très significatif, je crois. Et, vous connaissez cette phrase où il dit qu'il espérait un jour pouvoir pénétrer entre ces deux obstacles qui sont art et vie, et que peut-être...
Mais il travaille dans cette brèche.
Il trouvera quelque chose derrière cette brèche. Et je crois que c'est évidemment assez simple comme image, mais je crois qu'en même temps, c'est vraiment ce qu'il cherche. C'est pourquoi, certainement aussi, il prend des éléments... si souvent des éléments banals, enfin de la vie quotidienne, et les introduit dans ces pièces, c'est pour avoir cette perpétuel contact avec la banalité, n'est-ce pas, qui est donc quand même une partie de la vie.
Chargé de beaucoup de noblesse.
Ah oui. Ah oui, il a une façon de pouvoir rendre des cartons trouvés à la rue, donner ça une noblesse incroyable. Enfin, il paraît, j'ai pas vu ceci, mais il paraît qu'il a fait pour des bijoutiers à New York des étalages dans les vitrines.
Chez Tiffany.
Oui,
avec Jasper Jones.
Oui, c'est ça. Où il mettait les bijoux les plus coûteux sur des bouts de carton pétinés et qui ça enfin c'est assez typique, je crois, de sa façon de pouvoir rendre noble tout ce qu'il touche.
Alors Pontée Sultaine, je vous pose une question un peu étrange, mais enfin vous connaissez Rauschenberg depuis longtemps, vous êtes un ami de Rauschenberg, et est-ce qu'on peut attendre ou s'attendre à une rétrospective à Paris?
Ah, je crois que c'est une bonne question. Certainement. Enfin, ça sera...
Pourquoi ne pas avoir repris la rétrospective de Berlin?
Un jour nécessaire. Et pourquoi? C'est très simple. C'est pour des raisons tout à fait pratiques. Notre programme était déjà, complètement terminé avec tous les contacts établis, etc. Nous n'avons pas eu la possibilité réelle, pratique de prendre cette belle exposition qui est à Berlin. Mais j'ai confiance qu'un jour, et je pense que ça sera assez tôt, nous allons pouvoir faire une aussi belle exposition à Paris sans problème. J'en suis convaincu et je sais aussi que Rauschenberg nous aiderait ces jours-là.
Il y tient? Il y tiendrait?
Ah, il tient beaucoup à Paris, ça c'est certain. Il vient souvent à Paris, peut-être moins souvent maintenant quand il vit moins dans les grandes villes que dans le temps, mais il est venu, ça m'a beaucoup touché, parce que vous vous souvenez peut-être que pendant l'époque où on a préparé le centre Pompidou, on a fait des expositions au Grand Palais, on a fait, entre autres, on a fait la Max Ernst et on a fait Picabia. Picabia, l'exposition Picabia était pour nous une exposition importante dans notre préparation, et Rauschenberg est venu exprès de New York pour le vernissage, ce que nous avons beaucoup touché. Et il aime Paris. Il est venu certainement parce qu'il aime Paris. Ça, je crois.
Vous connaissez Captiva ?
Je connais l'île où il travaille maintenant. C'est donc tout à fait dans le sud-est, n'est-ce pas ? C'est une île tropicale, hein, très mince. On a l'impression que la vie, c'est un peu...
est en suspens.
Oui, voilà.
C'est arrêté.
Un peu en passant, comme ça. On ne sait pas. Il n'a pas de rochers, mais il a une végétation luxuriante avec des animaux fantastiques. Je crois que le climat est très, très doux. Rauschenberg est installé là d'une façon exemplaire, avec un bon studio. Et il a aussi là, sur place, des moyens de faire ses estampes. Un bel ensemble de moyens techniques.
Le travail de Rauschenberg, pour l'évaluer actuellement, c'est dans le contexte actuel, je crois qu'il faut l'évaluer comme une sorte
Claude Jeans.
De stratégie de rupture vis-à-vis de l'expressionnisme abstrait, c'est-à-dire vis-à-vis de Koenig. Et ces stratégies de rupture s'exprimant par la nécessité ou le besoin de vouloir réconcilier l'art et la vie, comme d'ailleurs il l'avait dit à l'époque. Et donc, ça s'est concrétisé par ces combined paintings, c'est-à-dire la combinaison d'une picturalité, mais qui dans le fond était toujours... très proche de celle de l'expressionnisme abstrait, c'est-à-dire très proche de l'action painting, très proche de l'énergie exhibée de Koenig et même de Pollock. Et bon, je crois que dans le contexte new-yorkais, dans le contexte un artiste comme Rauschenberg, créer ces combined paintings, c'était une sorte de réponse contre le cadre ou le carcan qu'imposait la peinture, la gestualité exhibée de Koenig. Et quand on connaît l'état de déréliction de New York, C'est presque un réflexe normal pour un New-Yorkais que de créer des ces combined paintings et de faire... de juxtaposer, si on peut dire, en fait, de juxtaposer à la fois la peinture picturale et l'objet ramassé dans la rue. Mais je ne crois pas qu'il faille voir dans l'objet ramassé dans la rue ou chez Rochenberg une stratégie qui serait une stratégie subversive et contestataire. Je crois qu'au contraire, dans les années 50, les années d'après-guerre, au contraire, c'était plutôt un état d'esprit, une ambiance assez euphorique qui prévalait. Et finalement, on en avait assez. On trouvait que la gesticulation de l'expressionnisme abstrait, son anxiété exhibée, était devenue une sorte de chose fossilisée. Donc, c'est dans ce contexte, je crois, qu'il faut voir le travail de Rochenberg. Et
ce qui est intéressant, c'est que Rochenberg a toujours précédé les mouvements. Il n'en occupe aucun, en fait.
Les mouvements, je pense que vous, quand vous dites qu'il a précédé les mouvements, c'est vrai, il a précédé, je pense que vous voulez faire allusion au mouvement au pop art, encore que, est-ce que c'est vraiment un mouvement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de commun entre, bien sûr, il y a quelque chose de commun, mais je veux dire que, entre la personnalité d'un Rosenquist, celle d'un Liechtenstein, et la démarche d'un Liechtenstein, la démarche d'un Rosenquist, ensuite la démarche d'un Oldenbourg, et celle, sans parler de Warhol, et celle de Rochenberg. Alors, il y a eu une conjonction qui s'est faite, je crois, à l'époque, entre Rochenberg, Capro, bien sûr, Jones, et avant Jones et Capro, probablement avec Cage, qui a joué un rôle très important dans la genèse de la cristallisation de l'art de Rochenberg. Je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est avec Cage qu'il a fait un de ses premiers travaux qui consistait à étendre une feuille de papier sur la rue, que vous connaissez sans doute, et Cage passant avec sa voiture, avec une vieille Ford dessus, pour en marquer l'empreinte. Alors, bien sûr, je veux dire que on peut situer ce genre de geste dans un contexte dada, mais je crois surtout, il faut le situer pour eux, dans un contexte plus immédiat, qui était le contexte de l'expressionnisme abstrait, et c'était une sorte de dérision vis-à-vis de la gestualité et autographique du coup de pinceau de ces artistes qui l'avaient précédé.
Le travail actuel vous intéresse ?
Alors, le travail actuel de Rochenberg, j'aurais, comment dirais-je, quelques scrupules à en parler, parce que je n'ai pas eu l'occasion de m'y attarder. J'ai l'impression que, si vous voulez, cette sorte de rudesse qui existait dans ses premiers travaux. C'était dans les travaux des années 55, 60, des grands combined paintings comme Monogramme, c'est-à-dire la chèvre et le pneu, qui sont éclaboussés de peinture, ou un autre combined painting célèbre qui s'appelle Odalisque, je crois. Et...
Canyon.
Pardon, et oui, Canyon. Enfin, Odalisque, faisant référence à toutes les odalisques qui avaient pu être peintes par les les maîtres anciens, et faisant référence donc à l'odalisque par un coussin et par un, et curieusement surmonté par un coq d'ailleurs, et Canyon aussi. Donc, la rudesse de ses premiers travaux, ou la force aussi qui se dégageait dans les collages du début des années 60 et des années 60, disons en général, marquées par l'emprunt de matériel urbain et de tirages de découpures de journaux, qui possédait toujours cette sorte de force, ou cette sorte de un peu primitive, me semble-t-il, sont devenus maintenant une recherche beaucoup plus décorative, qui n'est certainement pas sans intérêt, si vous voulez, mais il y a en tout cas un monde de distance entre cette pièce qui s'appelle de 1977, qui s'appelle Phoenix, qui est une sorte de cube, semble-t-il éclairé et surmonté d'un pneu
triomphant.
Donc décoré, si vous voulez, et le tout étant fondu dans une sorte de tonalité générale. Alors, bien sûr, entre une œuvre comme celle-ci et Monogramme, ou même d'autres combined paintings où il a utilisé des pneus, il y a plus grand chose de vraiment commun. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de raffinement qui est intervenu. Et ce raffinement, malgré tout, je veux dire, alors si on se place maintenant sur un plan formel, parce qu'on est obligé de se placer à partir du moment où, je veux dire, où on travaille dans un registre qui est plus formel. Eh bien, je ne pense pas, enfin, je ne vois pas que l'aménagement ou l'organisation de son espace, l'espace de Rauschenberg, soit bouleverse ce qui a pu.
Il vous déçoit.
Je ne dirais pas qu'il me déçoit. D'abord, je veux dire, vous voyez.
Nous parlons librement.
Oui, oui, non, mais
sans quand... micro.
Sans micro ?
Oui.
Ah bon, je croyais.
Non, enfin avec micro, mais c'est aussi sans micro.
Oui. Non, il me décevrait, si vous voulez, s'il fallait attendre d'un artiste qu'il soit toujours égal à lui-même et qu'il soit d'une que sa carrière suive une évolution
C'est la mère qui rêve son enfant.
Où les découvertes géniales se répètent. Alors, je ne pense pas que ce soit ça. Tout travail, qu'il soit artistique ou autre, c'est une longue recherche. De temps en temps, on découvre quelque chose. Donc, dans tout ça, il faut quand même être très prudent et savoir relativiser les choses. Mais après tout, on pourrait dire que d'un point de vue purement pictural, si vous voulez, ce que peuvent faire certains peintres aujourd'hui n'est finalement que de reprendre là où s'était arrêté Picasso en 1913, avec bien sûr des choses qui se sont passées entre-temps. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis déçu, pas du tout, mais dans le contexte où moi je me place, ce qui me paraît surtout intéressant et fort dans le travail de Rauschenberg, C'est ce qu'il a fait, disons, à la fin des années 50 et dans le courant des années 60. Vous me faites dire des choses horribles.
Pourquoi la vérité est horrible ?
D'abord,
pas la vôtre, je veux dire.
D'abord, oui, c'est ça, ma vérité. Non, mais enfin, vous savez ce que c'est quand les gens... Tant qu'il n'y a pas la distance du temps et...
Il y a sans doute quelques relations entre Rauschenberg et Berlin, entre la réalité et la magie, ou entre le réel et les sortilèges. À Berlin, dans le café le plus célèbre, le Zwiebelfisch, cette nuit-là, tout semblait étrangement s'emboîter, comme un système de pierres d'angle.
Kuntavar s'est faufilé dans la rédaction de la Bild-Zeitung. Et après, il a écrit, après 2-3 mois, il a écrit un livre sur les pratiques qu'on utilise dans cette espèce de journal.
Mais c'est quoi l'état de la presse en Allemagne?
Quand si on commence avec la Bild-Zeitung et tu me demandes quelque chose de la presse, c'est pas la presse. Il y a les journaux les plus importants, c'est Süddeutsche Zeitung, c'est Frankfurter Rundschau,
und die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Allgemeine, natürlich. Un autre journal qui est très grand, mais pas du tout de la même qualité, c'est Die Welt.
C'est l'impérium de Springer, ça, Die Welt. Hein.
Et à Berlin, ici, on lit le Tagesspiegel.
Ma question, le journaliste au Tagesspiegel que tu as rencontré, que nous avons rencontré hier. Hein.
Bon, alors,
mais la presse va mal, elle est concentrée. Ich danke Ihnen freundlich. La presse va mal.
Il est très connu par des choses comme ça qu'il a fait. Et il voulait faire un livre sur mescaline.
Sur quoi?
Mescaline.
Ah oui, sur de l'acide.
Oui. Alors il a fait.
Il y a aussi un groupe dont on parle beaucoup, non?
Un groupe.
Quel groupe?
Oui. Ah oui, les Springer, hein, c'est pas un groupe, enfin oui, c'est le tsar de la presse, comme on appelle chez nous. Il tient énormément de journaux, tu comprends? Il possède énormément de journaux, et puisqu'il a beaucoup d'argent, il achète toujours les journaux régionaux, tu comprends? Il les détruit complètement. Alors, Bild-Zeitung, ça lui appartient, Die Welt, ça lui appartient, enfin, énormément de choses. C'est un empire, tu veux, de la presse.
Est-ce que les chats lisent les journaux?
Les chats, oui, mais ils n'aiment pas la Bild-Zeitung parce qu'elle pue, tu sais, parce qu'il y a une imprimerie tellement grasse. Et ils préfèrent le Tagesspiegel parce que le papier est mieux, on peut mieux griffer dessus aussi, tu vois. Et la Bild-Zeitung, ils n'aiment pas du tout. Hein.
C'est difficile d'apprendre l'allemand?
Je ne sais pas. Pour moi, c'est difficile parce que je n'ai pas aucune méthode. J'entends qu'est-ce que les gens disent, les gens disent, et après j'ai oublié toujours toutes les choses. Mais c'est pas difficile, peut-être. Non, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de grammatique aussi.
Oui,
pour moi, c'est la construction qui est un problème toujours. Il faut que tu mets les verbes à la fin ou pas à la fin, quelquefois à la fin, quelquefois.
Et les inversions qui sont terribles. Les inversions.
Ah, oui, c'est ça que je ne comprends pas.
Inversion, c'est pas vraiment, je parle tout le temps. Il y a ça.
Cachot en allemand.
Ah, oui, ça, c'est terrible.
Alors, à la santé.
Oh.
avec Jens Jensen, Brigitte Arestorf, Carolina Stivala.
Bulle von der Bahn taucht auf. Ich halt den Brief in meiner Hand fest. Da steht, du fühlst dich tot wie Stein.
Monsieur, est-ce que vous avez aimé ce navet là, coupé en spirale?
Oui, j'aimerais bien que vous parliez de ce navet bizarre.
Alors, c'est un grand navet blanc. Les navets allemands sont beaucoup plus grands que les navets français, qui sont des petits navets. Des petits navets qu'on sous-estime parce qu'on les met un peu dans le pot-au-feu, quoi, simplement. Mais un navet comme ça, grand, alors cru, coupé en spirale. Alors, puis vous tirez ça, vous avez des véritables spirales, comme ça. Ou un colimaçon, si vous voulez.
Alors, il ne faut pas le manger tout de suite.
Non, mais alors, il faut le couper comme ça, il faut le mettre dans une assiette, il faut le saler. Et il faut attendre jusqu'à ce qu'il rende son eau. Et là, c'est bon.
Um dir ein Moosenbett zu bauen. Dein Riesensaxophon ist natürlich auch da. Und Flöten soll auf der Wiese wachsen. Die alte Frau bepfand mit Kleingeld. Wir warten auf den nächsten Zug. Ich sprach die
alte. Je pense qu'il y a une histoire à la maison de Jens. Qu'il y a une sortilège, que dire? Parce que toutes les femmes qui arrivent dans cette maison, ils tombent. Moi, je suis tombée, mais je suis cassée le bras. Qu'est-ce que le bras?
Elle s'est cassée
le bras. Vraiment, tu devrais regarder, il n'est pas plus le même comme l'autre. Hein? Tu regardes. Mm-hmm. Il n'est pas plus... Hein? Brigitte, moi, je suis tombée deux fois. Brigitte aussi, une autre femme aussi.
L'autre femme s'est fracturée la cheville.
La cheville.
Moi, je me suis blessée le genou l'autre jour.
Beaucoup, mais pas une chose comme ça.
Non, moi, trois jours, j'étais au lit. Hein.
On parle de toi, Yann. C'est pareil que ta maison est hantée.
Oui.
Il y a des grands problèmes avec un
escalier. Alors, Carola, qu'est-ce que tu vas faire contre ça maintenant?
Moi, j'ai demandé à quelle personne. Moi, j'ai fait une petite indagine, comme se dit. Indagine. Moi, je demandais qu'est-ce qu'elle doit faire pour fermer cette chose. Il m'a dit de prendre une sacchetto.
Un sac
avec le sable.
Ah oui.
Et une chose pour faire. Comment se dit ça?
Un balai.
Scope, hein?
Balai.
Il faut mettre avant à la porte et toutes les choses mauvaises.
Ah là, oui, tu sais, moi, il faut mettre le sable devant la porte.
Oui, le sable et la chose pour. Comment se dit la scope? Hein?
Ben, un balai.
Le balai.
Tu les deux ensemble.
Ah, c'est deux choses qu'il faut placer devant la porte d'entrée.
Oui. Si les sortilèges, ils continuent il faut faire des autres choses.
Il y a d'autres possibilités de faire...
Il y a des poupées. Tu peux prendre une poupée et tu peux mettre des spilles.
Des aiguilles.
Des aiguilles comme ça et tu dois faire... Il y a une sortilège dans cette maison. Je suis tombée des fois... Je ne veux pas qu'il m'assette. Je ne veux pas qu'il m'assette. Non.
Mais on fait ça, on fait ces choses-là en Sicile.
Ah oui.
Est-ce que tout le monde peut le faire ou est-ce qu'il faut avoir des dons spéciaux pour que cette.
Non, il y a des femmes. Il y a des femmes qui font ça. Il faut que tu ailles à la maison de cette femme. Il faut que tu donnes des cheveux. Pas une cheval, une chèvre.
Alors qu'est-ce que tu penses du sortilège?
Ah oui.
C'est lui qui l'a fait. Hein?
C'est arrivé déjà.
C'est lui qui l'a fait, je crois.
Parce que dans.
Pour toutes les femmes qui vivent à la maison.
Pourquoi il aurait fait ça, lui?
Parce qu'il est un peu. Comment tu dis? Cattivo.
Cattivo?
Il a un visage très gentil. Mais c'est pas vrai. Oui.
Il y a trop de femmes à la maison, ça c'est tout. Ça c'est le secret. Ah, oui, il y a trop de femmes là.
Ah oui, c'est ça. Oui,
mais Carole, il faut aussi réfléchir pourquoi justement quand on tombe chez lui, et c'est toujours une articulation qui saute.
Oui.
Hein, c'est ça.
Parce que je suis tombée beaucoup des fois.
C'est pas seulement vous, il y a une autre qui est tombée aussi.
On le sait, on l'a raconté déjà.
Ah oui.
C'est laquelle qui est tombée?
C'est une sculptrice.
Qui est tombé comme ça c'était pendant la jour, mais quand même.
C'est la même, moi je suis tombée pendant la jour aussi.
Oui, mais c'est plus foncé la nuit.
Bah, je pense qu'il, peut-être qu'il y a une objet.
Un objet
mauvaise qui est dans la maison et qu'il faut. Et qu'il faut
éliminer. Ah, qui attire
je,
ça qui...
Oui, je ne sais alors, pas qu'est-ce qu'il est, mais je pense qu'il y a une
moi j'ai une idée.
Ah oui?
Tu penses qu'il. Tu connais ça? Il faut que tu me dises ça. Parce que je suis toujours, je pense toujours. Qu'est-ce, peut-être qu'il y a une chose. Et je regarde, mais je trouve jamais.
Qu'est-ce que tu penses?
Comment s'appelle le propriétaire du Zibelfish?
Le propriétaire du Zibelfish?
Le restaurant le plus célèbre de Berlin.
C'est le restaurant le plus célèbre de Berlin parce que, bon, si tu veux, tout le monde se rencontre ici. Si tu veux, le milieu intellectuel public, c'est le Zibelfish, les artistes, c'est-à-dire les peintres, les sculpteurs, les intellectuels, les écrivains, les poètes, se retrouvent avec des personnes tout à fait... qui font d'autres métiers, comme enfin, les architectes. Ça, c'est Bernd Fahr, qui est le propriétaire du Zibelfish.
On va lui demander comment il a eu l'idée d'appeler cela Zibelfish.
Pourquoi wie hast du wie bist auf die Idee gekommen, Zibelfish zu nennen?
Das war nicht ich, das war mein Vorgänger. Der hatte mit Druckerei zu tun und Zwiebelfisch ist ein Wort aus der Druckereisprache. Also ein falscher Buchstabe aus einem anderen Alphabet in einem sonst geschlossenen Satz.
Il dit que c'était pas lui, c'était son prédécesseur qui l'avait nommé comme ça. C'est un terme d'imprimerie, très exactement. Si tu as un mot que tu imprimes en lettre d'imprimerie, et si tu mets une lettre, par exemple en italique, c'est-à-dire cette lettre appartient à une autre famille d'écriture. C'est ça, Zibelfish. C'est la seule petite fausse lettre qui cloche.
Alors, qu'est-ce qui fait que ce restaurant a autant de succès?
C'est comme si ce restaurant a un unglaublichen Erfolg hat.
Quel est le climat, l'atmosphère?
Das kommt natürlich durch die Leute, die hier verkehren. Ne? Das ist eine sehr günstige Lage. Die Kneipe hat einen Vorteil, man kommt in der Mitte rein und nicht wie bei fast allen engen Kneipen in dieser Art am Kopf. Also man kann übersehen durch die Scheiben, man kann sehen, wer da ist und man kann sehen, es haben sich eben hier die richtigen Leute getroffen.
Gerne.
Von Anfang an eigentlich. Ich hatte vorher eben schon sehr viele Freunde, die dann hier angefangen haben zu verkehren. Das hat, ist dann so ein Kreis daraus geworden und dann ist.
Et avant de commencer, il avait déjà une certaine clientèle, mais alors, pourquoi ce restaurant tant de succès, ça tient surtout au fait, ça tient à la clientèle qui est là. Aussi, si tu veux, par la disposition de l'espace, c'est-à-dire qu'en général, quand tu entres dans un bistrot, tu entres à la tête, mais là tu entres en plein centre, en plein milieu, tu vois tout de suite qui est là, tu as les grands vitres, tout le monde peut voir de l'extérieur qui est là ou qui n'est pas là, enfin déjà la disposition de l'espace est très favorable à ça. Mais moi je peux permettre une réflexion à moi-même en tant que traductrice, il est très modeste, sehr bescheiden. C'est en grande partie à lui, tu comprends? C'est sa personnalité qui attire les gens. Ça n'est pas seulement qu'il l'a dit.
Alors, on va parler de la personnalité. Je crois qu'il est pharmacien de formation.
Tu es also von Hause aus Apotheker. Oui, il est pharmacien de formation, c'est ça. Pourquoi hast du dich weitergemacht? Pourquoi tu n'as pas continué dans.
Non, mais c'est langweilig.
C'est trop ennuyeux.
La pharmacie?
La pharmacie, warum?
C'est heute nur noch ein Schubladenverkauf. Das ist ja kein. Man hat ja keinen Berufs. Hat ja keinen Beruf auszuführen, sondern halt nur zu verkaufen.
Nicht aujourd'hui, ce n'est plus la profession d'antan. Tu n'as qu'à ouvrir des tiroirs et de vendre des médicaments, tu ne prépares plus, c'est de la vente, quoi. C'est pas intéressant.
Alors maintenant, il prépare d'excellents plats.
Und jetzt, anstatt dass du Salben rührst, rührst du jetzt exzellente Soßen. Et maintenant, au lieu de cuisiner des crèmes et des cuisines des plats extraordinaires.
On m'a dit qu'on pouvait manger ici des filets de crocodile.
Man hat ihm gesagt, man könne hier Krokodilfilet essen.
Hat es mal gegeben, ja, stimmt.
C'est vrai, et c'est moi qui l'ai mangé, avec Stéphane, mon ami professeur qui toquait. Elle a mangé des filets de crocodile, oui, en sauce de vin blanc.
Vin blanc.
Formidable. Et avec du poivre vert.
Poivre vert,
alors c'est ouvert toute la nuit.
C'est die ganze Nacht offen?
Ja.
Oui.
Von 21 Uhr bis morgens 5, 6.
Von 21 Uhr?
21.
À partir de 9 heures du soir jusqu'à 5, 6 heures du matin. Quelquefois même jusqu'à 8 ou 9 heures, ça dépend des.
Alors que font les gens ici?
Was machen die Leute hier?
Reden. Reden miteinander, auseinandersetzen über den Tag, was bei vielen Gruppen sich treffen, Architekten oder Maler, und die sprechen natürlich über das, was anliegt am Tage, was sie gemacht haben. Was
il y a différents groupes qui se rencontrent ici, il y a des groupes architectes, des groupes peintres, évidemment, qui parlent de métier, enfin de ce qui a été, bon, si tu veux, à l'actualité du jour. Enfin,
j'aimerais bien qu'il me parle de Berlin, enfin, de la situation de Berlin par rapport à la restauration.
Je voudrais bien que tu parles de Berlin, was das für die Restauration, für die Gastronomie bedeutet, warum gerade hier die Gastronomie für dich besonders interessant ist und nicht woanders.
Darf ich dazwischen schießen?
Oui.
ich weiß.
Die parle.
C'est Monsieur Kunze, c'est un des meilleurs galeristes de Berlin.
Galerie d'art. Ich weiß leider, es ist nicht David Bowie, ein großer Pop-Artist sagte, ich bin so froh, in Berlin zu sein, und ich bin froh, dass es zwei davon gibt.
C'était un grand artiste pop, un chanteur pop, un zinger,
oui, oui.
Qui a dit « Je suis tellement content d'être à Berlin, je suis tellement content qu'il y en ait même deux.
» C'est magnifique. Entweder bist du da drin oder bist du gar nicht drin.
Ja,
und
ja, ja,
das ist in anderen Städten eben viel intensiver als hier, ja, und dadurch, ja, auch langweiliger. Ne?
Ja. Il dit, c'est que dans toutes les villes de la Main de l'Ouest, telles que Hambourg, Munich, par exemple, les classes sociales sont tellement délimitées, sont tellement bien précises ou définies. Par exemple, les huiles à Munich, tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Alors les gens communiquent à l'intérieur de leur groupe, ils ne sortent pas de leur clique, de leur groupe, de leur classe sociale. Or, ici, il y a des groupes aussi, mais enfin, ils communiquent entre eux. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup moins opaque, tu vois, c'est beaucoup plus flexible, les gens communiquent beaucoup plus. Donc, par ça, il se passe beaucoup plus de choses aussi.
J'habite en München, en Bonn et en Köln studiert und kenne also die Städte und kenne auch die Klicken und
il a
weiß.
Il fait des études à Bonn et Munich et à Cologne, donc il connaît enfin bien l'ambiance, le milieu, enfin.
Lauf ich durch Straßen bis zur Elbe hin. Down to the river! Hey, da seh ich dich am Ufer stehen. Ich fass dich an und so, du hörst nicht. Du sagst, du musst zum anderen Ufer. Die Fähre fährt am nächsten Tag. Ich dachte, dass du tief im Wald wohnst. Ich wusste nichts von deinen Ufern.
Carola, est-ce que tu aimes Berlin?
Oui, oui, j'aime Berlin. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une chose dans cette ville. Tu arrives ici et tu es aussi, si tu veux rester pas beaucoup de temps, tu restes parce que tu peux connaître beaucoup de gens, beaucoup de choses très, très. Strano, comme ça. Oui, moi, j'aime Berlin. Moi, je pense que c'est une vie très. Tout le monde, il vit comme dans un rêve. Il ne connaît pas les choses qui passent dans les autres situations. Il a une vie comme ça, très. Comme si tu bois, et tu parles, et tu promènes, et tu fais ces choses comme ça.
Qu'est-ce que tu es venu faire à Berlin?
Quand je suis arrivée à Berlin, J'ai plein de cul de l'Italie. Je vais faire une promenade. Je pensais, oui, je vais à Berlin, je travaille un peu. Et après, je vais en Sud-Amérique, en Mexico, comme ça. Et après, j'ai connu beaucoup du monde à Berlin. Je suis restée. Et la vie, c'est convolgere, comment se dit? Convolgere? Comment se dit? Con. J'ai pris l'habitude de faire cette vie et comme ça, et je vis. C'est une gare très, très. Qui te plaît. Et tu rêves, toujours, tu vas là. Tu vas. Il y a aussi des places à Berlin et tu peux l'énergie tu accumules beaucoup d'énergie, non? Et tu bois et tu es toujours assis il y a aussi des places où tu peux faire toutes les choses, tu peux danser. N'importe quoi.
Et
moi, j'aime aussi d'aller dans cette place.
Mais Jens disait tout à l'heure que c'est une ville double.
Qu'est-ce qu'il dit, Jens?
Il y a deux villes.
À Berlin. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vraiment vrai. Ça, c'est seulement un aspect de Berlin. Parce qu'il y a des situations où tu penses d'être. C'est vraiment différent. Les gens ici. Il y a beaucoup du monde, tu connais, qui s'appelle punk. Bon, non, pas beaucoup. À Berlin, il y a beaucoup de cette situation-là.
Tu es punk, toi?
Non, moi je suis latine. Moi je suis née en Italie. Ma culture, c'est vraiment différent.
En Italie ou en Sicile?
En Sicile, c'est une autre chose. C'est pas la culture à moi. Moi je n'aime pas cette chose. Il y a des personnes ici qui pour regarder, c'est vraiment ça, bizarre. Il y a des locaux où tu peux trouver des personnes qui sont comme ça, ou qui fument, ou qui boivent, ou qui ont un délire. Tu vois dans ces personnes qui a un délire. C'est vraiment. C'est...
Et tu aimes bien rester à la maison?
Oui, aussi. Bah, c'est moi qui sais ça. Moi, je suis un peu. Sauvage. Moi, j'aime beaucoup d'être seule. Et c'est pour ça que j'aime Berlin. Parce que ici, tu peux être avec personne, mais tu peux être aussi tellement seule si tu veux. Si tu veux, tu peux être. Tu peux voir rien, tu peux être dans la maison. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Moi, quand je suis en Italie, j'ai toujours fait les promenades dans la rue, dans la place, dans la ville, dans la campagne. C'est seulement à Berlin que j'avais un peu de. Ça, c'est mon histoire, c'est pas Berlin, c'est mon histoire personnelle. Mais ici, j'ai trouvé une concentration, une chose. Tu peux être seul, il plaire. Et tu regardes la pluie qui vient et tu es à la maison et tu lis et tu désires et tu fais des choses. La maison ou pas la maison, c'est pas important. Être seul. Parce que quelquefois, tu pars. Non, pourquoi? Tu peux aussi être seul et parler avec toi. Un peu l'attention.
Tu aimes beaucoup les chapeaux.
Les chapeaux?
Chapeaux d'homme.
C'est mon chapeau, je l'ai trouvé. J'ai cherché un chapeau pour 10 ans, vraiment. Parce que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas. Moi, j'ai trouvé et j'essayais. Non, ça, c'est pas pour moi. Un jour, je suis à Paris et j'ai vu ça. C'est un chapeau de clochard. Je l'ai trouvé dans la poubelle. C'est très bien la merde partout, comme ça. Et je l'ai vu et je dis, ah, ça, c'est mon chapeau. Parce que c'est vraiment très belle, non? C'est pour la. Parce que tu peux faire ça, bah tu peux faire aussi comme ça et tu vois rien. C'est très grand pour ma tête. Alors tu peux fermer les yeux.
Tu te caches dans la rue?
Oui, je suis comme ça. Non, toujours. penser seulement à qu'est-ce que je vais penser.
Tu dis bonjour à personne dans la rue. Tu dis bonjour, non?
Bonjour, oui, aussi bonjour. Mais quelquefois, je suis très agressive avec les personnes.
J'imagine.
Je n'ai pas un caractère très bon.
Mais tu as plusieurs chapeaux.
Plus quoi?
Tu as beaucoup de chapeaux. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 chapeaux.
Non, j'ai seulement ça.
Et les autres?
Non, c'est rien. Avec la grande chose rosée, c'est rien.
Et le non. Blanc chapeau sur le mur blanc?
Avec le... Ah, c'est moi.
C'est toi?
Si, c'est moi. C'est joli aussi. Je l'ai trouvé à Berlin, à Marseille bus. C'est joli. Non, mais c'est seulement ça. Je use seulement ça.
Nuit magnétique, d'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin. Cinquième partie, avec la participation de Dieter Rückeberl, Pontus Hulten, Claude Jeans, Jens Jensen, Carolina Stivala, Brigitta Restorff et Catherine Lagarde, Annie Lebeg, Michel Lindener, Pamela Dousseau, Jean Deve. Bonsoir.
Nuit magnétique, d'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin, cinquième et dernière partie, diffusée le 9 mai 1980 sur France Culture.